Chapitre 3. Malgré le trouble que lui avaient causé les paroles de son oncle, Ghislaine n'oublia pas la femme de la justice de paix. Aussitôt que M. de Chambray l'eut quittée, elle s'occupa à réunir tout ce qu'elle put trouver de musique non reliée. Surprise de cet empressement, Lady Capados voulut savoir ce qu'elle faisait là, et Ghislaine le lui expliqua. « Comment ? S'écria la gouvernante. « Vous allez donner votre musique à relier à des gens qui n'ont pas de travail ?»« Mais s'ils n'ont pas de travail, c'est qu'ils sont de mauvais ouvriers et votre musique sera perdue. Croyez-moi, laissez une aumône si vous tenez à lui faire du bien. » »«
Elle ne demande pas l'aumône. » »«
Si elle est réduite à la misère que vous dites, comment voulez-vous qu'elle achète ce qui doit entrer dans ses reliures ? La peau, le carton, le papier ?»
« Vous avez raison, je vais lui laisser une avance pour qu'elle puisse faire ses achats. »
Et dans la note qu'elle écrivait pour indiquer comment elle voulait que ses reliures fussent faites, elle plia un billet de 100 francs. À 5 heures, un coupé attelé en poste vint se ranger devant le perron, car pour aller à Chambray, qui se trouve entre Orsay et Montlhéry, ou pour venir de Chambray à Paris, ce n'était point l'habitude qu'on prit le chemin de fer. 4 postiers étaient attachés à ce service, et en leur laissant un jour de repos sur 2, ils battaient les locomotives de Sceaux, ce qui d'ailleurs n'était pas bien difficile. Quand Lady Capados s'était trouvée exclue du tête-à-tête que M. de Chambray avait voulu se ménager avec Ghislaine, elle avait compté sur ce voyage pour apprendre ce qui s'était dit dans cette longue promenade autour du jardin. Et ce n'était pas une curiosité vaine qui la poussait, le seul désir de savoir pour savoir, c'était son intérêt. Maintenant que Ghislaine était émancipée, qu'allait-il se passer? Était-ce d'un projet de mariage que M. de Chambray l'avait entretenu? La question était pour elle capitale. Bien qu'elle montrât une navrante mortification d'en être réduite, elle, une lady, à vivre dans une position subalterne, en réalité, elle tenait à cette position qui n'était pas sans avantage. Et bien qu'elle affectât aussi de n'avoir que du dédain pour la France, le pays, ses mœurs et ses usages, en réalité, elle tenait beaucoup à ne pas quitter cette France détestée pour retourner dans son Angleterre adorée. Superbe l'Angleterre, admirable, incomparable pour tout, mais de loin. En somme, si malheureuse qu'elle fût, elle ne craignait rien tant que d'être obligée, par le mariage de Ghislaine, de renoncer à son malheur et à son humiliation. À peine le coupé, quittant la rue Oudinot, roulait-il sur le boulevard des Invalides, qu'elle commença ses questions. « Cette émancipation va-t-elle changer quelque chose dans nos habitudes ? » dit-elle de son ton le plus affable. « C'est justement ce que mon oncle vient de me demander. » « Et vous lui avez répondu ? » « Qu'étant aujourd'hui ce que j'étais hier, je ferai la semaine prochaine ce que j'avais fait la semaine dernière. » Il est certain que l'émancipation ne confère pas tout d'un coup des grâces spéciales. Je ne sens pas qu'elle m'en ait conféré, et si vous le voulez bien, je vais préparer ma leçon pour M. Lavalette en lisant Chatterton. Ce que Lady Capados voulait, c'était de continuer la conversation sur ce sujet, mais déjà Ghislaine avait pris le théâtre d'Alfred de Vigny dans une poche de la voiture, et sa lecture était commencée. Elle dut donc se contenter du peu qu'elle avait obtenu, ce qui d'ailleurs était rassurant. Une enfant qui, pendant un certain temps encore, ne serait qu'une enfant. Mais quand elle remarqua les distractions avec lesquelles Ghislaine, ordinairement attentive et appliquée, faisait sa lecture, l'inquiétude prit la place de la confiance. Certainement, il s'était dit, entre l'oncle et la nièce, autre chose que ce que Ghislaine lui avait répété, et cette lecture n'était qu'un prétexte pour penser librement à cette autre chose. À un certain moment, mordue plus fort par la curiosité, elle la questionna de nouveau, mais cette fois indirectement.
« Il me semble que Chatterton ne vous intéresse guère. »
Je réfléchis.
« C'est précisément ma remarque.
Vous m'avez toujours dit qu'il ne fallait pas dévorer ses lectures.
Encore faut-il les suivre.
C'est ce que je vais faire. » Elle se plongea dans son livre sans relever les yeux, sinon pour lire, au moins pour échapper à ses interrogations. Elle avait bien l'esprit à la lecture, vraiment, aux amertumes de Chatterton ou aux gronderies du Quaker. Quel sens pouvaient avoir ces paroles vaines quand, dans ses oreilles et dans son cœur, retentissait encore celle de son oncle?
Elle n'avait pas attendu le jour de son émancipation pour se dire qu'elle ne trouverait que dans le mariage les affections et les tendresses qui avaient si tristement manqué à sa première jeunesse. Mais les idées qui, depuis longtemps, flottaient dans son esprit, venaient de prendre corps par la forme précise que son oncle leur avait donnée, et elle la jetait dans un trouble qui l'emportait. Quel était ce mari ? Réaliserait-il les rêveries et les espérances dont son cœur se nourrissait depuis qu'elle avait commencé à juger la vie ? Jusqu'à sa 10e année, il n'y avait pas eu d'enfance plus heureuse que la sienne, et les souvenirs qui lui restaient de ce temps étaient tous pleins de joie. Un père, une mère qu'il adorait et dont l'unique souci semblait être son bonheur. Autour d'elle, une existence de fête qui lui avait laissé comme des visions de féerie. Au château, dans les allées du parc, les brillantes cavalcades auxquelles elle était mêlée, galopant sur son poney à côté de sa mère. À l'hôtel de la rue Monsieur, les splendeurs des bals qu'elle entrevoyait avant l'arrivée des invités et la musique qui, la nuit, la berçait dans son lit. Et toujours à Paris, à la campagne, un entourage d'amis, une sorte de cour. Et tout à coup, la nuit s'était faite. Plus de père, plus de mère, plus de fête, plus d'amis, l'abandon, la solitude, le silence. Le père avait été tué dans un accident de chasse. 8 jours après, la mère était morte d'un accès de fièvre chaude. Du côté de son père, il lui restait un oncle, le comte de Chambray, dont on avait fait son tuteur, et de nombreux cousins qu'il a rattachés aux grandes familles de l'aristocratie française. Du côté de sa mère, espagnole de naissance, elle avait des oncles et des tantes, mais fixés tous en Espagne, ils ne pouvaient guère s'acquitter de leur devoir de parenté envers cette petite Française qu'ils connaissaient à peine. Plus de tendresse, plus de caresses, plus de chaude affection dans la maison déserte. Seulement, de temps en temps, un mot amical, un baiser de son oncle quand il venait la voir au château ou à l'hôtel, et plus souvent à l'hôtel qui était à Paris qu'au château où l'on n'arrivait qu'après un petit voyage. Et toujours la parole grave, le geste solennel, la leçon à propos de tout, de Lady Capados, bonne femme dans le cœur, mais dans le caractère, les manières, l'attitude toujours gouvernante et gouvernante anglaise, froide, impeccable, infatuée de sa naissance, exaspérée de sa pauvreté et convaincue qu'elle grandissait sa situation par sa dignité. À 10 ans, à 11 ans, jusqu'à 14 ans, Ghislaine avait accepté cette vie monotone, soumise et résignée, sans échapper au dehors, n'imaginant pas dans son impuissance enfantine qu'elle pût être autre. Si enfant qu'elle fût, elle comprenait que c'était par scrupule et pour qu'on ne l'accusât point de s'être débarrassée d'un devoir difficile que son oncle, au lieu de la mettre au couvent, avait voulu cette éducation. Et quand elle le voyait se faire jeune et affectueux pour lui en adoucir les sévérités, quand elle voyait Lady Capados toujours attentive et toujours appliquée à sa tâche, ne pas dire un mot, ne pas faire une observation qui ne fût dictée par la justice même, elle sentait qu'elle eût été ingrate de se plaindre. On était pour elle ce que les circonstances permettaient qu'on fût. Un oncle n'est pas un père, une gouvernante n'est pas une mère. C'était là le malheur, la tristesse de sa situation qu'elle ne pouvait pas le reprocher. Mais la floraison de la 15e année avait suscité en elle des échappées au dehors qui étaient nées de ses souvenirs mêmes. C'était en se rappelant les regards émus et les paroles de tendresse que sa mère et son père échangeaient en l'embrassant qu'elle s'était dit que la morne solitude et les tristesses de son enfance ne se dissiperaient que le jour où elle se marierait. Pourquoi, alors, ne serait-elle pas heureuse comme sa mère l'avait été ? Pourquoi le babil d'un enfant n'amènerait-il pas sur ses lèvres ces sourires qu'elle avait vu le sien provoquer sur celles de sa mère ? Et, de même, c'était en se rappelant les illuminations et les fleurs des grands appartements de l'hôtel, aujourd'hui toujours fermés, c'était en retrouvant dans sa mémoire l'aspect superbe de la cour d'honneur du château les jours des grandes chasses, ou celui de la salle de spectacle les soirs où l'on jouait la comédie, qu'elle avait compris que tout cela ressusciterait quand elle se marierait. Et voilà que le mari qu'elle avait rêvé, sans lui donner encore, l'être idéal qui flottait indécis dans les féeries de son imagination, devenait un personnage réel. Il existait, il la connaissait. Tout au moins, il l'avait vue. Où ? Elle n'était point de ces petites bourgeoises mondaines qui, à 18 ans, ont été partout. En vraie fille du monde, où les traditions sont une religion, elle n'avait été nulle part. Les offices à Saint-François-Xavier, quand parfois elle passait un dimanche à Paris, quelques rares visites chez des parentes à qui elle avait des devoirs à rendre, en janvier ou à de certains anniversaires, en mai, des séances d'études au salon depuis qu'elle travaillait la sculpture, et c'était tout. Il lui était donc facile de remonter dans ses souvenirs en se demandant où elle avait vu l'homme de son monde qu'elle accepterait pour mari et qui pouvait prétendre à sa main. Évidemment, elle n'avait pas à chercher au salon. Jamais personne n'y avait fait attention à elle. Tout d'abord, elle en avait été mortifiée, s'imaginant qu'elle valait bien un regard. Mais elle n'avait pas tardé à comprendre que ceux qui ne la connaissaient pas n'allaient pas accorder ce regard à une fille simplement habillée, que pour le costume, on pouvait prendre pour une jeune femme de chambre accompagnant sa maîtresse, plutôt que pour une fille de grande maison accompagnée de sa gouvernante. C'était donc seulement dans des visites qu'elle avait pu se rencontrer avec ce mari, et parmi les jeunes hommes qui semblaient réunir les qualités dont parlait son oncle, elle n'en trouvait qu'un, un seul qui les eut toutes, celle-là et beaucoup d'autres qu'elle était disposée à lui reconnaître, le comte d'Unières. En tout, elle ne l'avait pas vu 3 fois et ils n'avaient pas échangé 10 paroles. Mais certainement, il était le seul qui fut l'incarnation vivante de l'être idéal dont elle avait si souvent rêvé. Pourquoi ? En quoi ? Elle eût été bien embarrassée de le dire, ne sachant rien ou presque rien de lui, mais enfin, elle sentait qu'il en était ainsi.